8h31, c'est la revue de presse de Radio Classique. Bonjour Marc Tédé.
Et bonjour François, bonjour à tous.
On commence par une interrogation. Emmanuel Macron est-il un président ou un historien ?
Une question posée dans Libération par Serge Julie, alors que le président de la République a lancé dimanche un long cycle mémoriel pour marquer le 80e anniversaire de la Libération, avec un déplacement sur le plateau des Glières et un hommage aux enfants d'Izieux. Emmanuel Macron est le premier président français à concevoir sa fonction comme celle d'un super professeur d'histoire en charge du récit national et de l'identité qui va avec. Le chef de l'État multiplie les hommages nationaux, 28 depuis qu'il est en poste contre 18 sous François Hollande, ou 4 pour Nicolas Sarkozy, relève Serge Julie. Tant mieux, poursuit le journaliste, si chaque épisode suscite la curiosité de nos concitoyens, donne lieu à la publication de livres susceptibles de réconcilier les mémoires ou permet de faire le ménage dans les dossiers les plus noirs. Mais un homme politique est-il le mieux placé pour faire œuvre de vérité ? Il serait en tout cas logique, conclut l'éditorialiste, qu'un président élu amène avec lui à l'Élysée un véritable historien pour traiter de tous ces événements et éviter les faux pas.
Justement, le site Politico et Le Monde reviennent sur l'histoire d'un faux pas de communication devenu, selon Le Quotidien, une erreur politique.
Et cela concerne cette fois le génocide des Tutsis au Rwanda de 1994. Jeudi dernier, trois jours avant les commémorations organisées 30 ans après ces massacres, les services de l'Élysée annoncent que le chef de l'État s'apprête à reconnaître à cette occasion que la France n'a pas eu la volonté d'arrêter ce génocide alors qu'elle en avait les moyens avec ses alliés occidentaux et africains, détail Politico.
Ça, c'est ce qui était prévu, mais finalement, dans le message vidéo ce jour-là, rien de tel.
Le président rappelle son précédent discours sur la responsabilité de la France dans le génocide, mais sans préciser quelle responsabilité. Emmanuel Macron précise alors n'avoir aucun mot à ajouter, aucun mot à retrancher de ce discours. Une conseillère de l'Élysée assume un faux pas de communication, comme le rapporte Le Monde, qui cite aussi la colère de certains diplomates. L'un évoque un bazar insensé à l'Élysée, un autre les artistes qui entourent Emmanuel Macron. Parmi les proches de François Mitterrand, président en exercice lors du génocide rwandais, son ancien chef de cabinet Jean Glavany dénonce une communication hasardeuse et l'absence de démenti clair de nature à créer donc de la confusion sur la position du président.
Comment parvenir à la paix ? Question pour l'Ukraine où la seule voie possible serait diplomatique selon la France insoumise. C'est ce que constate Libération.
Une posture en opposition avec toutes les autres familles politiques, relève Le Quotidien, mais les responsables de la France insoumise revendiquent régulièrement être à la tête du camp de la paix et dénoncent une diabolisation. Jean-Luc Mélenchon affirmait le mois dernier que seule cette issue diplomatique permettra qu'il n'y ait ni vainqueur ni vaincu. La France insoumise propose un référendum sous supervision internationale dans les territoires occupés par l'armée russe, territoires disputés selon le député Émeric Caron, insupportable à gauche pour les socialistes et les écologistes et opposé à une solution qui reviendrait à demander à des agressés ukrainiens s'ils acceptent de passer dans l'escarcelle de l'agresseur russe.
Tout autre chose et on revient en France. Faut-il continuer d'employer l'expression crime d'honneur ?
Débat que vous retrouverez aujourd'hui dans les pages de La Croix. Après la mort de Shamseddine, adolescent de 15 ans, passé à tabac à Viry-Châtillon par les frères d'une jeune fille qui lui reprochait des discussions liées à la sexualité avec leur sœur. Le crime d'honneur est un renversement de perspective, note l'un des contributeurs. Un autre relève que le phénomène apparaît dans certains milieux en rupture avec la protection assurée en principe par l'État et que se développe une forme de machisme perçu par certains comme ayant une utilité sociale quand il n'est pas valorisé.
La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques sur la Seine reste une bonne idée.
Et c'est ce qu'affirme le ministre de l'Intérieur dans une longue interview à nos confrères du Parisien. Gérald Darmanin assure ne pas travailler sur un plan B pour cette cérémonie et précise « Nous n'avons aucune menace terroriste caractérisée sur l'organisation des Jeux. À ce stade, près de 200 000 vérifications de personnes accréditées aux Jeux Olympiques ont été effectuées sur un total d'1 million avec 161 000 fichiers S qui ont
161
161 fichiers S, pardon, et qui ont été écartés, les deux tiers pour islamisme radical. Le reste est issu de l'ultra-droite et de l'ultra-gauche.
Et puis pas de Jeux Olympiques sans flamme olympique. Elle arrive à Marseille le 8 mai. Elle devrait parcourir tout le territoire, y compris l'outre-mer.
Et dans le Figaro, on peut lire que la flamme traversera l'Atlantique. Départ le 7 juin de Brest, direction la Guadeloupe, à bord du trimaran Banque Populaire d'Armel Lecléache. Le Figaro a recueilli les confidences d'un des équipiers sélectionnés pour cette traversée, l'homme de théâtre Alexis Michalik. Il avoue avoir décliné dans un premier temps avant d'en parler à des copains qui m'ont dit « Comment tu peux passer à côté de ça ? C'est une expérience extraordinaire. » Il a donc accepté. Et pour terminer, François, perdre volontairement ses enfants dans la forêt, est-ce que ça vous dit quelque chose?
Oui, ça rappelle un conte un petit peu triste, avec des petits cailloux blancs.
Exactement, le petit poussé. Ouais. Mais il s'agit aussi d'une pratique volontaire et éducative, pratiquée aux Pays-Bas, sous le nom de « dropping » de l'anglais. Laisser tomber, c'est-à-dire sur le site d'information Slate. La pratique est très encadrée.
Ça vaut mieux.
D'autant plus nécessaire que cela commence à partir de l'âge de 7 ans.
Marc TD, je vais prendre des nouvelles de vos enfants peut-être ce matin. La revue de presse de Radio Classique, il est 8h37. Dans un instant, Esprit Libre, Christophe Barbier et Bruno Jeudy sont déjà dans le studio.